Ah oui, là, ça fait. Il y a pas de reste une victime étrangère.
Ouais, j'ai bien fait de pas mettre des chaussettes de couleur différente.
Bon, bonjour tout le monde, j'avais juste deux petits mots à vous dire avant que commence la rencontre. Alors d'abord, j'aimerais bien que quelques élèves, après cette rencontre avec vos auteurs, viennent me mettre un petit mot dans le livre d'or pour remplir les bancs blancs. J'ai encore quelques blancs, c'est pas très joli, donc c'est pour Monsieur Grevet pour cet après-midi. Et justement, cet après-midi à 14h45, ceux qui ont envie de rencontrer Yves Grevet, parce que je sais qu'il y en a qui partent à 15h30, qui ne pourront pas venir à la remise du prix, on fera une petite rencontre informelle du côté du kiosque, là, dans le parc. D'accord ? Donc tous ceux qui veulent venir, à partir de 14h45, on sera là-bas, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez.
Merci beaucoup et bonjour. Bon festival à vous tous, et puis merci d'être venus aussi nombreux pour échanger autour de ce prix littéraire auquel vous avez participé et ces auteurs que vous avez, j'imagine, déjà rencontrés. Évidemment, on va un peu moins parler des livres avec nos auteurs en eux-mêmes, puisque pour une fois, j'ai un public qui, normalement, a lu tous les auteurs qui sont présents. On va s'intéresser aux ressentis qu'ont eu les auteurs dans cette découverte pour certains et dans ces rencontres qu'ils ont pu avoir avec vous, et puis dans le cheminement, tout simplement, d'un auteur qui est en lice pour un prix comme le vôtre. On va commencer avec Victor Dixen. Finissez de boire. Puisque c'est aussi le coup de cœur des Imaginales cette année, mais il y avait fromage et dessert presque, je vais dire, avec en plus donc, cette participation au prix des collégiens. Alors vous expliquiez tout à l'heure à l'ouverture que quand vous avez appris que vous étiez coup de cœur, vous aviez crié. Est-ce que vous avez crié aussi quand vous avez appris que vous étiez en lice pour le prix des collégiens ?
On m'a annoncé les deux très bonnes nouvelles en même temps, donc c'était un grand cri commun, voilà, un grand cri de joie commun pour les deux.
Est-ce que, justement, Animal, qui pour moi peut être aussi bien un livre considéré pour les adultes que pour les plus jeunes, c'est aussi une manière de reconnaissance, finalement, d'être nommé pour un prix comme celui des collégiens ?
Ah oui, je pense que toute nomination à un prix est toujours une reconnaissance qui fait très plaisir. Et d'autant plus quand il s'agit d'un prix de lecteur, ce qui est le cas pour le prix des collégiens. Donc ça veut dire qu'on va être lu, qu'on va être étudié dans les classes, qu'on va discuter du livre, et c'est très excitant. Oui.
Anne Fakouri, même exercice, quand on apprend qu'on est en lice pour un prix comme le prix des collégiens, est-ce que ça fait un grand plaisir ?
Oui, ça fait toujours plaisir, d'autant plus que... tous mes livres ont été nominés soit au prix des collégiens, soit au prix des lycéens, et je ne l'ai jamais eu. Donc moi, j'ai une réclamation, pour commencer, parce que, contrairement à Victor, moi, quand je joue, je gagne. Donc là, je ne suis pas du tout contente. Non, c'est vraiment génial d'être nommée à un prix. Moi, j'aime à chaque fois. J'aime aussi, bien sûr, l'avoir. C'est un plaisir aussi. Mais savoir qu'on est lu... Et du coup, aussi critiqué par notre lectorat, notre premier lectorat, et qu'en plus, on va avoir un retour, parce que vous venez nous faire un retour. Moi, c'est, je le disais tout à l'heure en intervention avec vos camarades, c'est vraiment la reconnaissance que j'aime avoir et que j'attends.
Daniel Martinigol, pour Cantoria, qui met en scène en plus des personnages qui ont l'âge des collégiens qui vous ont lu et qui vous ont critiqué. C'est intéressant justement d'avoir leur regard sur un roman comme celui-là.
Oui. Mais...
Ce qui marche celui-là, oui.
Oui, ça fait toujours énormément plaisir de savoir que notre livre va être lu par le public que nous avions quelque part dans la tête au moment où nous écrivions le roman. Il se trouve que moi, j'ai été enseignante pendant très longtemps. J'ai eu des jeunes lecteurs devant moi qui ne lisaient pas mes livres parce que je ne faisais pas lire mes propres livres à mes élèves. Mais j'ai longtemps vu leur réaction devant des romans pour jeunes. Et ça m'interpelle toujours d'essayer aussi d'imaginer, l'imagination est là, comment le lecteur va réagir en lisant un de mes livres. Et j'espère toujours que je vais réussir à l'accrocher, ce jeune lecteur, et à l'emmener jusqu'au bout du bouquin. Et le fait de savoir que ce sont des groupes dans les cadres des classes qui vont donc échanger, qui vont s'encourager, qui vont critiquer le livre aussi ensemble, je trouve ça très, très sympathique. Ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup.
Et puis je voulais finir, ne le prenez pas mal avec Frédéric Delmeul, mais c'est parce que j'ai une question un petit peu particulière par rapport aux autres à vous poser. J'ai lu, vous allez peut-être me détromper, que vous étiez un peu arrivé par hasard dans ce monde de l'édition, ou en tout cas que ça avait été un petit peu compliqué dans la genèse. Et puis vous voilà, alors je pense chronologiquement c'est avec le troisième roman, c'est ça, le projet Abraxa, nommé pour un prix comme le prix des collégiens. Est-ce que vous êtes surpris ?
Surpris. Je suis extrêmement content. Oui, ça m'a un peu étonné quand même, parce que c'est vrai que depuis le temps que j'écris, j'ai un peu pris l'habitude d'arriver par hasard et d'arriver à contre-temps. C'est vrai que j'ai galéré énormément pour
faire. C'est un peu le sujet de vos livres aussi, d'arriver à contre-temps.
Exactement. Voilà, tout à fait. Comme quoi, ça va avec. Mes premiers romans étaient des romans pour adultes, et au départ, je n'imaginais pas que j'allais écrire un jour pour des jeunes, pour des adolescents comme vous. Et je suis enseignant, et donc quand on m'en a proposé l'occasion chez Flammarion, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. J'y ai pris vraiment énormément de plaisir, j'étais assez content du résultat que ça donnait, parce qu'au départ je ne m'étais pas du tout projeté dans ce genre de littérature. En fait, je l'ai découverte, hein, c'est mon premier roman jeunesse. Je ne lis pas particulièrement de littérature jeunesse par ailleurs, donc j'étais vraiment le novice en tant que lecteur et puis aussi en tant qu'auteur, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui m'appartenait. Et évidemment, être sélectionné pour le prix des collégiens, c'est une sacrée reconnaissance. Et puis surtout, ça m'a donné l'occasion de faire quelque chose que je trouve absolument passionnant, c'est des rencontres. Quand on est en salon, quand on est en dédicace, souvent on s'adresse à des gens qui n'ont pas lu les livres. Et l'échange reste un peu superficiel. Alors que quand je vais rencontrer une classe qui a travaillé sur mon livre et qui me pose des questions quand même souvent assez pointues sur le sujet, là on peut rentrer vraiment dans le fond du débat et ça donne des échanges qui sont absolument passionnants et que j'adore.
Alors justement, on va venir à ces rencontres aussi, on va voir un peu le point de vue que les auteurs ont gardé de ces rencontres qu'ils ont pu faire avec vous. Victor, je sais que vous habitez loin, vous avez quand même eu l'occasion de rencontrer quelques classes.
Alors malheureusement pas encore pour Animal, je crois que j'ai des rencontres prévues cet après-midi, donc ça sera avec grand plaisir. J'avais eu la chance d'être nominé pour le prix Imaginal des collégiens il y a 2 ans pour Jack Spark, mon précédent livre, et j'avais à l'occasion rencontré des classes avec grand plaisir. Oui.
Et justement, comme le disait Frédéric, est-ce que ce sont des lecteurs particuliers, j'allais dire différents, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas particuliers, ils ont un regard différent peut-être du commun des lecteurs ?
Par rapport à des lecteurs qui n'auraient pas étudié de...
Oui, par rapport au fait que ce soit pour un prix, est-ce que justement ils prennent leur rôle de juré
Je pense qu'il y a une implication effectivement dans la lecture qui est peut-être encore plus forte, aussi une exigence et des questions plus pointues qui peuvent parfois surprendre, désarçonner, mais qui sont très stimulantes.
Anne, même question, est-ce que justement le regard de ces jeunes lecteurs sur votre travail, il est enrichissant, il vous apprend des choses sur votre travail, sur votre écriture ?
Oui, mais enfin, cela dit, alors vous avez de la chance, vous avez quand même 3 profs là. Donc, je l'ai déjà en tant que prof, ça. De toute façon, c'est toujours enrichissant. Je suis désolée, je me répète pour les élèves avec qui j'étais en intervention juste avant. Mais ça permet non pas de rester jeune, parce que ça ne se récupère jamais, hélas, mais de rester connecté avec vos préoccupations, vos envies, vos soucis aussi. Et de savoir un petit peu de quoi on parle et voir la façon dont on évolue. Parce que moi, mes 12, 13, 14, 15 ans, ça commence à être un petit peu loin. Et on oublie plein de choses, on transforme plein de choses. La mémoire transforme plein de choses. Donc rencontrer des lecteurs, au-delà des élèves, rencontrer des lecteurs et avoir des retours, ça permet aussi de préciser ce qu'on a envie de dire et surtout de savoir à qui on s'adresse. Et ça, c'est vraiment le plus important.
Daniel, l'autre, encore une prof, donc on le disait. Justement, là aussi, voilà, il y a ce moyen de rester connecté avec la génération alors que les années passent.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que on se souvient comme nous étions tous quand nous étions adolescents, mais nous n'avions pas tous les moyens de communication et de connexion qu'ont les jeunes maintenant. Et c'est vrai que ça permet, en les rencontrant, d'avoir un retour direct, affectif souvent. Les jeunes lecteurs réagissent souvent d'une façon spontanée, ils aiment ou ils n'aiment pas. Et ils n'hésitent pas à le dire. Je me souviens, mon éditeur m'avait dit, la première fois que j'ai présenté un manuscrit chez Hachette, m'avait dit à un moment donné, dans la discussion que nous avions, votre roman est une bluette sentimentale, en ayant l'air de dire que j'avais écrit de l'Arlequin, l'eau de rose, etc. Et d'un seul coup, la moutarde m'est montée au nez, parce qu'il faut dire que j'ai fait toutes mes études à Dijon, c'est peut-être ça qui est, hein, c'est peut-être lié. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai fait exprès d'écrire un roman de science-fiction qui soit en même temps un roman d'amour, ce que j'ai d'ailleurs refait dans pratiquement tous mes livres. Je lui ai dit, si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, tant pis, vous me le dites, un point, c'est tout. Et il m'a dit, voilà ce que j'attendais. Alors j'ai dit, vous attendiez quoi, que je me fâche? Il m'a dit, exactement, vous allez aller devant le public le plus intransigeant qui soit, c'est-à-dire le public jeune, qui, s'il aime votre livre, vous dira, j'ai adoré, et s'il n'aime pas votre livre, vous dira, c'est nul. Hein, et c'est pas loin d'être la stricte vérité. Et c'est ça que j'ai toujours apprécié dans les rencontres, à savoir que les élèves sont francs. Un lecteur adulte va prendre beaucoup plus de détours pour dire à un auteur qu'il n'a pas apprécié son livre.
C'est de moins en moins vrai avec les blogs maintenant, ça balance quand même beaucoup plus.
Mais là, on est caché derrière un écran.
C'est ça. C'est plus difficile de dire du mal en face. Il se trouve que à la fois la sélection et en l'occurrence la table est plutôt bien faite, puisqu'on a d'un côté la science-fiction et de l'autre côté, on va dire, plus le fantastique. Hein, donc on va aussi voir qu'on a toute la diversité de ce que sont les imaginales représentées cette année dans ce prix des collégiens. Alors justement, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement vous n'avez pas encore pu vraiment discuter avec eux, mais quand même, moi je vais vous demander votre avis, Victor. Votre roman Animal s'intéresse de près aux contes, et en particulier aux contes de Grimm. Est-ce que c'est encore une génération justement qui a ces références-là et qui connaît ces histoires? Parce qu'on parle de Boucle d'Or, mais on croise d'autres contes, hein, à l'intérieur du roman.
Oui, moi les contes, c'est toujours un matériau qui m'a passionné, qui m'a fasciné. Je pense que cette génération qu'on a en face de nous a les contes comme référence, mais nous-mêmes, nous les avons aussi, toutes les générations finalement, se réfère aux contes, hein, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, et c'est aussi un matériau qu'on peut renouveler, qui est tellement riche qu'on peut toujours creuser, on peut aller chercher des choses, les réexprimer d'une manière différente, plus moderne, ou dans un univers différent, et à chaque fois, on a des surprises et des émerveillements. Donc pour moi, les contes, c'est une source d'inspiration intarissable. C'était déjà le cas dans Jack's Park, plus du côté des contes de Perrault, et à nouveau dans Animal, effectivement, plus du côté de Grimm.
Avec justement cette noirceur aussi. Pour un public adolescent, c'est quelque chose à quoi vous avez pensé
Je pense qu'il y a deux choses. Les contes, tout d'abord, la version qu'on en a aujourd'hui, c'est la version Disney, qui est effectivement un peu guimauve, gentillette. Mais quand on relit les contes originaux dans leur première forme, que ce soit Perrault, Grimm ou les autres, ce sont des histoires très sombres, très violentes, il y a du sang. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est aussi pour ça que ça marche. Et il me semble que l'adolescence, en tout cas moi, quand je me souviens de celui que j'étais lorsque j'étais adolescent, c'est un âge où on a envie de se faire peur. Et bon, il y a tous les films d'horreur pour adolescents, c'est une des manières d'exprimer ça, mais dans les livres aussi, on peut avoir ces frissons, on peut chercher le danger et aussi apprendre à le surmonter.
Alors on reviendra sur le personnage dans le cours de cette table ronde également. Anne, même réflexion, dans Hanté, c'est une histoire avec des fantômes. Là encore, il y a cette volonté finalement de... Alors, au moins au départ, de se faire peur, en tout cas, avec cet archétype.
Oui, moi, j'adore les fantômes. J'adore ça. Je vis dans un univers de fantômes, de toutes sortes de fantômes. En plus, j'ai une sœur qui vit au Brésil, qui, du coup, connaît bien la religion Umbanda. C'est un mélange de religion catholique et de spiritisme. Donc, j'avais accès à tout ça en plus. Et j'adore ça, j'adore me faire peur, je suis une grande fan de contes aussi. Et voilà, donc je vis dans cet univers de peur. Mais je suis une vraie trouillarde, en plus. C'est-à-dire que j'arrive à me faire peur moi-même en écrivant, et c'est assez agréable. Enfin, on retrouve ce, vous savez, ce plaisir d'enfance, on est dans son lit, on lit effectivement. Alors là, pour le coup des contes, il y a le loup, la sorcière, etc. On a peur, mais enfin, on est quand même dans son lit avec les parents qui lisent, c'est assez rassurant. C'est pas une vraie peur. Je trouve finalement que la vraie peur est dans la réalité. Les choses qui nous font vraiment peur, c'est ce qui arrive. Enfin, moi, il y a plein de sujets qui me font peur dans la réalité, bien plus que les fantômes. Et puis, les fantômes, il y en a partout, toutes les séries qu'on regarde, toutes les séries qui passent en ce moment. Il y a beaucoup de séries de fantômes, de sorcières, ce genre de choses. On est de toute façon dans un univers imaginaire.
Juste peut-être pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, Anne, ça me fait penser à une phrase de Stephen King qui disait que si on lit des histoires d'horreur, c'est aussi pour nous apprendre à surmonter les vraies horreurs du réel. Et ça, je pense que c'est très ça. Nécessaire. Du
et
coup.
Ils disent aussi qu'ils regardaient régulièrement sous son lit, même à l'âge adulte.
Oui, toujours. Voilà, s'il n'y a pas le croque-mitaine en dessous.
Ce qui est idiot, il ne faut jamais regarder sous son lit.
Elle vous a fait peur, Anne Fakouri? Non?
Comment ça, non?
Oups, j'ai posé la mauvaise question. On va passer à la science-fiction avec un regard très différent. Frédéric Delmeul, vous nous parlez de voyage dans le temps. Alors moi j'ai grandi en lisant Wells et la machine à explorer le temps. Est-ce que justement c'est là aussi un sujet que vous avez senti que ce jeune public était réceptif?
Je crois que c'était plutôt un challenge. Hein. Je ne sais pas si les jeunes lecteurs sont encore traditionnellement attirés par la science-fiction, tout au moins en forme littéraire. J'ai pas la réponse à la question. J'ai l'impression que la jeunesse tourne plutôt vers d'autres formes littéraires que la SF. Donc c'était aussi ce qui m'avait attiré quand Flammarion m'a proposé un projet de SF pour jeunes. Et pour le reste, j'ai une formation d'historien. Je suis passionné par l'histoire. J'adore me plonger dans le passé. C'est un monde complètement bouleversant, inconnu, surprenant, et qui arrive encore à m'émerveiller et à me terrifier aussi d'ailleurs. Sur certains sujets, certaines époques, et avec une formation d'historien, avec un goût pour la SF qui remonte quand même à mon adolescence, le voyage dans le temps s'est assez vite imposé. Hein. C'est déjà le sujet de mes deux premiers romans adultes. Ça pouvait être que le sujet de mon roman pour jeunesse. Alors à partir de là, il fallait pas que je fasse peur non plus à des jeunes lecteurs. Donc il fallait quand même choisir des sujets, un sujet qui était relativement facile à mettre en scène et assez abordable, et puis en particulier un sujet qui est étudié, hein, tout simplement, au collège aussi bien qu'au lycée. C'est pour ça que je me suis dirigé assez vite vers les grandes découvertes, ce qui d'ailleurs rejoint assez mon goût pour l'aventure historique et ma fascination aussi pour la mer et tout ce qui l'entoure.
D'ailleurs, on voyage dans un sous-marin. Hein.
Oui, on voyage dans un sous-marin. Ça, c'est vrai que quand on s'est posé la question de la façon dont mes personnages voyagent dans le temps... c'était donc pour mon premier roman adulte. Alors j'avais le choix entre plein de possibilités. Il fallait surtout pas quelque chose de plat, genre les personnages avalent une pilule et hop, ils se retrouvent transportés 3 siècles en arrière. Je voulais une machine spectaculaire, un truc vraiment qui marque un peu le lecteur.
Et discrète
en plus. mais justement, c'est ça qui est merveilleux avec le sous-marin, c'est que c'est la machine en même temps la plus monstrueuse et en même temps la plus discrète possible. Elle disparaît. Je trouvais que c'était une bonne métaphore du voyage dans le temps, en fait. Le sous-marin, c'est là, puis c'est plus là. Et ça surgit ailleurs. Ça peut être ailleurs dans l'espace ou ailleurs dans le temps. Et pour plein d'autres raisons, j'ai encore choisi le sous-marin, mais il me fallait une machine, une vraie machine. De toute façon, la science-fiction, c'est un genre littéraire aussi bien que cinématographique qui a toujours accordé énormément d'importance à ses vaisseaux, et je voulais vraiment que le mien ait de la gueule, si vous me pardonnez l'expression.
Ah bah, la transition est toute trouvée pour parler avec Daniel, parce que là aussi le vaisseau il a de la gueule et surtout il a de l'importance dans le récit.
Oui, alors moi j'ai toujours été passionnée par l'astronomie, par l'espace. Depuis toute petite, paraît-il que j'ennuyais ma famille en demandant ce qu'il y avait dans les étoiles. Donc comme quoi, en ayant le nez en l'air depuis mon plus jeune âge et en m'interrogeant sur ce qu'il y avait dans les étoiles, ça m'a amené tout naturellement, le jour où j'ai découvert les romans de science-fiction que lisait mon grand-père et qu'il avait bien soigneusement caché dans le bas d'une bibliothèque, mais qu'évidemment j'ai déniché et j'ai dévoré. Je suis toujours restée passionnée par l'espace. Or, scientifiquement, là c'est vraiment une parenthèse scientifique, Aller dans l'espace, c'est très, très, très compliqué. Et surtout, dans les connaissances techniques actuelles, on n'est quand même pas prêt d'aller très loin. Et donc, je me suis toujours amusée dans mes romans à essayer d'imaginer d'autres moyens que des machines traditionnelles, que des vaisseaux classiques, pour essayer d'aller loin dans l'espace. Et c'est ce que j'ai voulu faire en créant les vaisseaux Orc, en fait. Hein. Je me suis dit que cette énergie différente qu'était le champ pouvait peut-être arriver aussi à propulser des vaisseaux et à aller très loin dans les étoiles. Ouais.
Alors en plus, c'est un roman à quête, on va dire, à plusieurs niveaux d'ailleurs, finalement, des quêtes individuelles pour les personnages, et puis une quête beaucoup plus collective pour la société dans laquelle ils évoluent. Là aussi, finalement, on est dans quelque chose qui est assez classique pour de la littérature adolescente, mais qui finalement leur correspond parce qu'eux aussi sont en recherche, finalement.
Oui, tout à fait. Je pense que de la même façon que mes héros vont être motivés par leur amour, hein. En fait, le nerf de la guerre dans Quantoria, c'est l'amour que se portent les deux héros. Dès le début, hein, du roman, on sait qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de se retrouver. Et on dit que l'amour abolit les frontières, que l'amour est une puissance extraordinaire, c'est ce que j'ai voulu montrer. Mais en plus, j'ai passé mon adolescence avec une maman pianiste, et ma mère chantait très bien aussi, et je voulais montrer tout l'aspect caché qu'il peut y avoir dans la pratique d'un instrument de musique à un très haut niveau, à savoir que quand on voit un pianiste à la télévision, quand on entend un soliste jouer, on ne voit que la pointe, toute petite pointe d'un iceberg épouvantablement contraignant en dessous, qui est le travail quotidien, que la pratique d'un instrument de musique dans le quotidien. Moi, j'ai passé mon enfance à entendre ma mère jouer des gammes. Hein. Alors, quand elle jouait un morceau et que tout le monde s'esbaudissait en disant « Oh là là, mais quel artiste formidable !» etc. Moi, je pensais, oh là, quand je pense au nombre d'heures où dans la maison n'ont retenti que des gammes et des exercices pour délier les doigts. Un jour, j'ai dit à ma grand-mère, pour être fille d'une pianiste, il faut beaucoup de patience. Et alors là, elle m'a regardée, elle m'a dit, ma chérie, pour être mère d'une pianiste, il faut aussi beaucoup de patience. Donc c'est vrai que cette énergie du travail pour obtenir un résultat qui est quelquefois très court, un morceau de musique, un morceau de piano, ça ne dure pas très longtemps, et ça m'a donné envie d'utiliser ça. Alors mélanger cette passion que j'avais pour la science-fiction et l'espace et mon quotidien. Et je pense que les jeunes comprennent ça, qu'ils peuvent avoir une passion qui va peut-être paraître complètement folle et débridée à leur entourage, et puis ils ont autour d'eux des gens qui vivent, qui travaillent, qui font des tas de choses, et c'est eux aussi cette espèce de mélange entre leurs rêves et leur quotidien qui fait qu'ils vont avancer.
Voilà. Victor, le côté quête est aussi présent dans Animal, mais alors avec des difficultés supplémentaires. Alors évidemment, on ne va pas raconter tout le roman pour ceux qui nous écouteraient peut-être ici ou ailleurs, mais il y a aussi donc un personnage adolescent. Elle a 17 ans au début de l'histoire, la demoiselle. Elle aussi, elle se cherche pour plein de raisons. Est-ce que vous pensez justement que là aussi, elle peut toucher un public adolescent par le mal-être qui l'habite quelque part, même si au début, elle n'en a pas forcément conscience?
Comme vous dites, elle se cherche, et je pense que s'il y a un âge où on se cherche, c'est vraiment l'adolescence. Et on peut se chercher en fouillant dans le passé, en essayant de chercher ses racines quand on ne les connaît pas bien, ce qui est le cas de mon héroïne blonde qui est une orpheline, élevée dans un couvent depuis son enfance. Elle ignore tout des raisons qui l'ont conduite ici. On peut essayer aussi de se chercher en s'inventant. Moi, c'est ça qui me semble très stimulant d'un point de vue littéraire dans l'adolescence, c'est que c'est l'âge où tout est possible. C'est l'âge où tout est risqué aussi, mais c'est là qu'on décide le chemin qu'on va prendre pour sa vie. Et ça, c'est étourdissant comme perspective.
Alors, elle se cherche, et pour se trouver, elle va partir aussi dans des aventures à la fois dangereuses, vers un inconnu aussi, puisque voilà, il y a des éléments qui font qu'elle ne sait pas très bien où elle peut aller et vers quoi elle va aller. Et là aussi, j'imagine, c'est quelque chose dont on rêve, finalement, en vous lisant, on quitte complètement son quotidien.
Oui, bah, c'est vrai que dans le cas de Blonde, l'expérience de l'adolescence est peut-être poussée à l'extrême, parce qu'elle a été dans ce couvent qui est un peu une prison pour elle depuis son enfance jusqu'à sa 17e année. Du coup, ce qu'il y a au-delà des murs du couvent, la vie qui l'attend, sa vie d'adulte, c'est quelque chose de complètement inconnu, de très effrayant. Et le fait de choisir de s'enfuir du couvent, déjà, ça lui demande un courage extraordinaire.
À tel point qu'elle revient la première fois.
Elle va revenir, elle va revenir, effectivement. Elle va se rendre compte aussi que finalement, les sœurs qui l'ont élevée dans le couvent avec énormément de sévérité pendant toutes ces années, lui ont peut-être aussi apporté quelque chose. Mais il a fallu qu'elle s'éloigne d'elle pour s'en rendre compte. Et ça, je pense que c'est un chemin qu'on fait tous par rapport à nos parents. Peut-être à un moment, on veut vraiment pousser les limites, s'émanciper, partir le plus loin possible. Et c'est seulement après, quand on a un peu grandi, qu'on revient vers eux. En tout cas, c'est mon expérience.
Qu'est-ce que la dimension fantastique du roman apporte en plus dans cette quête et dans cette réflexion et cette recherche ?
Bah, pour moi, le fantastique, c'est vraiment un moyen de pousser plus loin les questions, de pousser plus loin les interrogations, un cran supplémentaire par rapport au réel. Mais au final, les questions qu'on pose, les réponses qu'on essaye de chercher, ce sont des questions et des réponses qui nous concernent tous et qui font partie de l'expérience humaine, finalement. Donc dans le cadre d'Animal, et c'était aussi le cas dans Jack Sparks, il est question de la transformation. Mon héroïne dans Animal, mon héros dans Jack Sparks sont des adolescents qui se transforment en autre chose. Ils voient leur corps évoluer, ils ne comprennent pas bien leurs réactions, ils ont des impulsions, des instincts, un peu comme on a tous ressenti à l'adolescence, mais chez eux, ça va plus loin. Ils vont vers quelque chose de monstrueux, vers quelque chose qui n'est peut-être pas complètement humain et qu'ils vont quand même devoir maîtriser pour pouvoir grandir.
Et vers une violence aussi, quelque part, qui est difficilement, d'abord difficilement prévisible et ensuite difficilement maîtrisable.
Oui, c'est vrai que dans le cadre d'Animal, hein, le titre le dit déjà, Blonde est victime de pulsions, de colère très violente, dévastatrice, dont elle ne se souvient pas. Elle se réveille parfois les mains en sang, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc effectivement, ça l'effraie, c'est cette puissance qu'elle a en elle, cette puissance de destruction, d'autodestruction, mais dont elle pourra peut-être faire quelque chose si elle réussit à la maîtriser.
Anne Fakhouri, il y a une notion dans Hanté qui est la notion de justice. C'est intéressant d'attaquer un sujet pareil dans un roman pour adolescents.
Oui, c'est même primordial. De toute façon, l'idée de justice, plus ou moins éclairée, vous l'avez. D'ailleurs, le premier truc que vous dites quand vous êtes pris en faute, c'est pas juste. C'est ce qu'on entend, en tout cas, en tant que parent et prof, assez régulièrement. La notion de justice était primordiale parce que Hanté parle de plusieurs choses. D'abord, qui sont liées par la même chose, qui est l'enfant objetisé. Il y a la guerre du Rwanda, effectivement, et les procès de la guerre du Rwanda ont eu lieu il y a 2 ans, donc c'est très récent par rapport au génocide qui a eu lieu dans les années 90. Et puis il y a l'enfant roumain, enfin ces enfants qui sont dans le métro à Paris, qu'on ignore en fait, qu'il n'y a pas de justice pour ces enfants-là. Jamais, il n'y a même pas de regard, puisque si vous avez lu Hanté, vous vous souvenez peut-être de la scène du métro, où il y a ce bébé assis par terre avec une jeune fille dans le métro et les usagers du métro qui passent, qui le regardent pas. Cette indifférence totale. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Je trouve qu'on objectise beaucoup trop les enfants et les adolescents, quels qu'ils soient. On n'a pas besoin d'être martyrisé pour être objectisé. Et ça m'intéresse de poser ces questions-là et de vous poser aussi ces questions-là et de me poser ces questions-là. Cette idée ces questions, oui, de justice.
Parce que finalement, on est dans de la fiction, on est dans du fantastique, mais on parle finalement de nous, du monde qui nous entoure et de la réalité.
Bah oui, puisque moi, ma conception du fantôme, c'est ce qu'on appelle l'obsessor, c'est-à-dire les fantômes qui sont restés parce qu'ils n'avaient pas réglé quelque chose dans leur vie. Donc, de toute façon, on est sur une base réelle, puisque ce sont des êtres, des esprits qui restent pour justement réclamer la justice. Pour plein de gens, et là je pense à Lumbanda dont je vous parlais tout à l'heure, de toute façon les fantômes font partie du quotidien. Et nos fantômes sont là aussi, pour prendre une image très simple mais qui marche, les gens qu'on a aimés et qui sont morts sont là avec nous. On est, plus on vieillit, ben, parfois très jeune, plus on vieillit, plus on est accompagné de fantômes, pas obligatoirement d'obsesseurs et pas obligatoirement de fantômes douloureux, mais de gens qui sont toujours là, même après leur mort, parce qu'ils nous ont marqués, parce qu'on a été élevés par eux, parce qu'on les a aimés, tout simplement. À l'origine, le fantastique, vous l'avez étudié en quatrième, c'est cette ambiguïté entre la réalité et des phénomènes surnaturels. À l'origine, c'est ça. Au XXe siècle, c'est plus assumé. Histoire de vampires, de sorcières, de loups-garous, c'est un surnaturel ancré dans la réalité. Les vampires sont là, vivent au milieu de nous, etc. Mais du coup, quand on fait du fantastique au XXIe siècle, on est dans cette idée qu'on est quand même dans une certaine réalité. Il n'y a plus cette ambiguïté-là. On ne se dit pas que ce sont des hallucinations. Voilà, on a quitté cette définition qui date du XIXe depuis assez longtemps.
C'est l'influence de l'image qui fait ça ?
Ah ouais, complètement. Moi, j'adore les séries. J'adore les séries de spécialement imaginaires. Et je pense, oui, que c'est l'influence de l'image. Puis la peur qui a changé aussi. Les vampires ne font plus peur. De toute façon, quel vampire fait peur ? Le vampire de Twilight ? Enfin, voilà. Je veux dire,
c'est sûr si, que c'est, enfin, c'est si, pas Christopher
il fait,
Lee. Hein.
Ouais, alors moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, toi, j'avais réussi à y échapper. Et finalement, je l'ai vu et il fait un peu peur quand il raconte qu'il vient la nuit pendant 3 mois regarder l'héroïne dormir. Bon, moi, ça m'a fait vraiment peur. Mais sinon, voilà, on est loin du Nosferatu qui mange des rats et qui assassine des jeunes filles innocentes.
Mais alors, justement, sur les fantômes, la réaction première des personnages, c'est quand même un peu la frayeur, non ? On doit quand même s'interroger un peu.
Mais dans Hanté, la peur n'est pas dans les fantômes. Les fantômes viennent, alors s'il y en a un qui est un obsesseur pas très sympa parce que lui, il veut empêcher quelque chose, mais Atari, qui est le fantôme principal, vient pour être aidé. Ce qui fait peur dans Hanté, enfin du moins la peur que moi j'y ai mise, c'est cette réalité de l'enfant objetisé, c'est l'histoire du métro qui est vraiment le centre, alors que ça n'est pas le sujet du livre, mais le centre du livre. C'est l'idée d'injustice aussi, puisque Samuel essaye de rétablir l'image de son beau-père qui a été accusé d'être un ripou à tort. Donc voilà, c'est la réalité qui fait peur d'Hanté. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les vampires, les fantômes, les sorcières, ça ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est l'indifférence, l'injustice, la misère, le fait qu'on ait régressé d'un siècle. Ça, vous ne le voyez pas à Épinal, mais à Paris, à 11h du soir, on sort du restaurant, on tombe sur un matelas avec un enfant et une jeune fille à peine plus âgée que lui, un enfant de 2-3 ans, une jeune fille de 12-14 ans, assis par terre, qui font la manche. Et ça, c'est une régression d'un siècle. Si dans Hanté, je dis que je fais dire à Tuc que le père Hugo se retournerait dans sa tombe, je pense même qu'on pourrait poser une dynamo dessus, on pourrait éclairer Paris avec, parce qu'il doit hurler à la mort de voir cette régression. On n'avait plus d'enfants dans les rues depuis un siècle et personne ne réagit. Les services sociaux ne peuvent rien faire, la police ne peut rien faire et les gens passent. Ça fait partie du décor. Finalement, on n'est pas responsable d'eux. Et ça fait vraiment peur. La question de se dire, moi, ce qui me fait peur, en tout cas en tant que mère, c'est de me dire que, aussi, au-delà du fait que j'ai un petit peu peur de l'avenir, de l'humanité en général, quand je vois des gens passer devant des enfants dans le métro, il y a autre chose qui me fait très peur, c'est que j'ai des enfants à peu près de cet âge-là. Dans 20 ans, mes enfants seront face à ces enfants-là. Et ces enfants qui n'ont vu que des pieds toute leur enfance, auront des raisons de se révolter et auront des raisons d'être violents. Et nous, on n'aura rien fait pour ça. La vraie terreur est là. La vraie terreur n'est pas dans le fantôme qui est vite contrôlé dans Hanté. C'est dans l'indifférence générale et la façon dont on exploite les enfants sans prendre conscience du tout qu'on en est responsable et qu'on va le payer demain. Et j'ai plombé l'ambiance, je suis désolée.
Ouais, je vais charger Frédéric Delmeul d'alléger tout ça, parce que... Non, mais il y a un ingrédient important dans vos romans, c'est qu'ils sont quand même très drôles.
Ils sont très drôles, oui. Mais enfin, le constat de départ, je rejoins complètement ce que disait Anne, hein, c'est le monde terrifiant, le monde qui fait peur, c'est le nôtre. Hein, c'est pas celui des fantômes, des vampires, etc. Nous vivons dans un monde qui est absolument terrifiant. Et c'est vrai que c'est le point de départ de l'histoire. Mes personnages se demandent comment faire pour changer de monde et le rendre un peu meilleur, en tout cas moins pire, si je puis dire. Alors c'est drôle. Oui, j'ai essayé d'être drôle quand même. Bon, on ne peut pas parler de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'esclavage, du génocide, de millions de morts, etc., sans essayer d'alléger un petit peu tout ça. Mon but n'était pas de terroriser aussi mon lectorat. Donc, j'ai essayé de prendre mes ados, en fait, tels que je les connais dans mes classes. Ils peuvent être totalement concernés par ce qui se passe, assez facile à révolter contre des injustices qu'ils constatent, etc. Quelquefois assez indifférent aussi, hein, faut bien le dire. L'indifférence, ça vient pas forcément avec l'âge adulte. On peut la ressentir à tout âge. Il faut la combattre à tout âge. Et ils sont drôles. Oui, ils sont très drôles. Et d'ailleurs, je crois que les répliques, certaines des répliques que je préfère parmi mes personnages, en fait, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est mes élèves qui ont pu me dire ça. Mes élèves sont une source d'inspiration permanente pour moi. Je suis friand quand je suis en cours, j'ai toujours une oreille qui traîne. Bon, tous les profs ont des oreilles qui traînent, hein. Mais moi, l'oreille qui traîne, ça sert aussi à nourrir l'écrivain, ouais. Et quand j'entends l'un d'entre eux qui prend cher avec un de ses copains, avec une bonne réplique bien sentie, je me dépêche de la noter dans ma tête ou sur un bout de papier pour pouvoir la réutiliser. C'est un hommage que je dois leur rendre, hein, que je dois vous rendre d'une certaine façon. Voilà. Et s'ils sont drôles, c'est parce que vous êtes drôles d'une façon générale.
Alors, qui dit voyage dans le temps dit anachronisme, forcément aussi. C'est aussi un ressort inépuisable, on va dire.
Ben, l'anachronisme permet la confrontation, et c'est ça que je recherchais en fait dès le départ. L'anachronisme, c'est de prendre une bande d'ados du 21e siècle et puis de les jeter dans le sillage de Christophe Colomb et de les obliger à rencontrer, et à vraiment rencontrer, pas superficiellement, mais à nouer des contacts avec des gens qui sont du 15e siècle. Et l'anachronisme, en fait, permet de mettre en lumière la façon dont chacun fonctionne, permet de mettre en lumière des modes de pensée différents. Au XVe siècle, on est encore pétri de culture religieuse, c'est absolument indispensable, alors qu'au XXIe siècle, c'est quelque chose qui est devenu très étranger aux jeunes d'aujourd'hui. Et cette rencontre anachronique, moi, elle me paraît utile dans le récit. Enfin, c'est vraiment ce qui motive le récit. En fait, c'est amener chacun à découvrir l'autre, à laisser tomber un petit peu ses préjugés. Mes ados du XXIe siècle, ils arrivent, ils ont un gros complexe de supériorité parce que voilà, ils ont la technologie dont on dispose. Ils s'imaginent qu'ils vont mater ces gars du 15e en claquant des doigts, ça va être très facile. Et de l'autre côté, les marins du 15e siècle, eux, sont pétris de superstitions, de croyances, souvent infondées. Et chacun se rencontre. Et en fait, les masques tombent, les préjugés tombent aussi. On essaie de faire un pas vers l'autre et un pas vers une vraie rencontre.
Alors justement, il y a cette affaire de préjugés et finalement de découverte d'une civilisation presque différente, on va dire, même si c'est la nôtre, même si c'est la même. L'écart des siècles fait qu'on est quand même dans quelque chose d'assez différent. C'est une manière aussi de remettre en perspective ce que nous vivons aujourd'hui.
Ah ben, complètement, complètement. Et c'est d'ailleurs, j'ai souvent des questions là-dessus de la part des élèves que j'ai pu rencontrer. La question, en fait, c'est de savoir, on peut être adolescent aujourd'hui, mais en fait, mes lecteurs se rendent compte qu'au XVe siècle, il n'y a pas d'adolescence. Et Alvaro, voilà, on l'a pris dans le domaine de son père, on l'a arraché à la seigneurie de son père, et il est jeté dans le monde des adultes, sans transition, du jour au lendemain. Et on n'a plus cet âge, on n'a pas encore cet âge intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte qu'on appelle l'adolescence. Et c'est un point qui ressort assez souvent dans les questions que j'ai, c'est en fait, mon public se rend compte que l'adolescence, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. L'adolescence, c'est une construction sociale. On vit dans une société où il existe un âge intermédiaire, l'âge des études, l'âge de l'émancipation progressive vis-à-vis de la société des adultes, des parents, des profs, etc. Mais on n'est pas encore jeté dans le monde des adultes, on n'est pas encore obligé de se débrouiller tout seul. Sauf évidemment les enfants dont parlait Anne tout à l'heure, qui eux ne connaissent ni enfance ni adolescence.
Daniel Martinigol, on est là aussi dans un monde où, si je me souviens bien, les enfants, en tout cas les adolescents, sont triés sur le volet, en tout cas pour ceux qui sont les chanteurs qui vont propulser. Il y en a d'autres dont le sort est beaucoup moins enviable et beaucoup moins agréable.
Oui, tout à fait. La société est. C'est une société féodale, en fait, hein, séparée entre les nobles qui ont la puissance entre les mains et qui consacrent la voix de leur chanteur aux louanges de la déesse, et le bas peuple, comme on dit, c'est pour ça que je les ai appelés les bas chanteurs, qui produisent toute l'énergie nécessaire pour que les autres aient une vie rêvée et fastueuse. Et en fait, mon mari est historien, et quand j'ai commencé à construire le roman, je lui ai demandé des conseils sur la manière dont je pouvais construire cette société imaginaire. Et il m'a répondu d'une façon très simple, il m'a dit « c'est pas difficile, tu en mets qui travaillent pour les autres ». Et c'est vrai que c'est ça, c'est malheureusement, c'est exactement comme ça que ça se résume dans le roman. Et donc intervient, on est en fait à une charnière historique dans le roman, interviennent les esprits plus éclairés parmi la noblesse qui commencent à se poser des questions sur le fonctionnement du monde. Et on est dans l'époque de la Renaissance, un peu là, hein, tout à fait.
Et puis un peu de la rébellion aussi.
Rébellion, on est dans une période de révolution, en fait. Hein. C'est un peu calqué sur une copie du système féodal qui, petit à petit, va être complètement annihilé par la révolution, par la prise de pouvoir du peuple. Hein. Et c'est le peuple qui, en fait, continue dans l'histoire à faire avancer la société, de même que là, ce sont les bas chanteurs qui font avancer leur société vers les étoiles.
Alors on est dans une société où finalement chacun est prédestiné, oui. Mais on commence à apercevoir un peu peut-être des possibilités de monter dans l'échelle sociale, en tout cas par rapport au champ, justement d'arriver, même peut-être en partant du plus bas de l'échelle, d'arriver un jour à être un de ceux qui vont propulser les vaisseaux.
Voilà, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la passion. Très souvent, je discutais avec mes élèves en leur disant « qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ?» Et souvent, les élèves haussent les épaules en disant « je ne sais pas ». Et donc, je prenais le problème à l'inverse. Je disais « qu'est-ce que tu aimes faire ?» Un jour, un de mes élèves m'a dit « moi, j'aime la pêche ». Alors, il m'a dit « il ne faut pas le dire à ma mère parce qu'elle ne veut pas que j'aille pêcher. » Alors, j'y vais en cachette. Et donc, évidemment, aux entretiens parents-professeurs suivants, je me suis empressée de dire devant la maman, nous avons longuement discuté tous les deux, ce qui était archi faux, nous avons longuement discuté tous les deux des métiers éventuels liés à la pêche, le tourisme, l'élevage des alevins, etc. Alors, l'élève était en train de se refermer complètement, mais je sentais qu'il me haïssait intérieurement en se disant, il va me faire tuer. Et puis, finalement, au bout de 5 minutes, la maman a dit, j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire un métier autour de la pêche. Et il est reparti avec sa mère, en dialoguant avec sa mère sur l'hypothèse de faire peut-être plus tard un métier lié à sa passion. Et moi, c'est ce que je voulais montrer dans ce livre. Mon héros aime chanter, il est doué. Eh bien, ces dons, il ne faut pas les laisser à l'abandon, si j'ose dire. Hein. Il faut tout faire pour les mettre en action. Mais ça demande de la volonté, de la rébellion, de l'énergie.
Du caractère,
voilà. Il faut se battre. Hein. On n'arrive à rien sans rien, c'est sûr. Hein. Mais voilà, on peut aller jusque dans les étoiles avec une passion.
Et il y a un élément qui va rejoindre un peu ce que disait Anne et Frédéric, c'est que ces chanteurs, pour faire avancer le vaisseau, ils ont besoin, j'allais dire, d'être sur la même longueur d'onde, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça. En tout cas, d'être suffisamment solidaires et d'être, de faire un ensemble,
voilà,
vraiment.
C'est ça, le cœur du roman, si pour Anne c'est l'enfant que personne ne voit sur le quai du métro, pour moi le cœur du roman c'est justement le grand cœur, cette fois écrit avec le H, c'est-à-dire le fait que quand on est jeune, on peut très facilement abolir les barrières sociales imposées par les adultes. Et ce qui est au cœur de tout ça, c'est la solidarité, l'entraide, se serrer les coudes, s'apprécier, apprendre à connaître les autres.
Y compris par ceux qui sont dans la soute et qui vont apporter
ça.
Leur aide
je
à ceux
qui sont... Je pense qu'il y a s'il y a une phrase que je veux sauver de mon roman, c'est le moment où les bas chanteurs arrivent devant le cœur des jeunes nobles et que les jeunes nobles regardent tous ces jeunes chanteurs qui commencent à accorder leur voix aux leurs et qui se disent « ils nous ressemblent, ils sont comme nous ». Voilà, c'est ça. C'est, voilà, apprendre à connaître son voisin, déjà dans la classe, dans le collège, dans la ville, dans le pays et dans les pays à côté. Élargissons.
Victor, justement, c'est un peu le problème de Blonde, c'est que y a peu de gens finalement qui cherchent vraiment à la comprendre. Il y a le vieux policier qui vient la voir et qui lui apporte des informations, et puis il y a ce jeune tailleur de pierre, mais finalement tous les autres, et puis un peu certaines des sœurs aussi du couvent où elle a grandi, mais dans l'ensemble, son problème, c'est que justement, personne ne cherche vraiment à savoir qui elle est.
Ben, c'est vrai qu'elle a un statut un peu particulier dans ce couvent de Sainte-Ursule, donc, où elle a été élevée depuis sa naissance. C'est-à-dire que d'autres jeunes filles vont y passer pour parfaire leur éducation pendant quelques années. Jeunes filles qui sont toutes issues de familles nobles et qui savent que après ces quelques années, elles se marieront dans le monde, elles auront une famille. Et donc, elle la regarde un peu de haut en se disant bah, cette pauvre blonde, elle va rester au couvent, elle va finir par prendre le voile, elle ne se mariera jamais, elle ne connaîtra jamais l'amour, elle n'est pas comme nous.
Elle a un côté Cendrillon, hein, quelque part.
Elle a un côté complètement Cendrillon. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver plusieurs contes, hein, plusieurs motifs de contes qui se combinent dans Animal. Elle a ce côté Cendrillon, cette espèce de flamme voilée. J'ai essayé, moi, de composer Animal d'un point de vue esthétique vraiment comme un clair-obscur, avec beaucoup d'ombre et un peu de lumière, et de la lumière qui va s'intensifier tout au long du roman. Et la source de lumière, en fait, c'est la chevelure de Blonde, cette chevelure fantastique, cette chevelure de boucles d'or, que les sœurs, au départ, lui demandent de cacher sous des châles, sous des voiles, parce que c'est scandaleux, cette blondeur qui attire tous les regards. Et petit à petit, et ça sera le signe de son émancipation, Blonde va tomber les voiles et elle va devenir celle qu'elle est vraiment au fond d'elle-même.
Et justement, on disait il y a ces oppositions. Il se trouve que même au sein parmi ses camarades, on va dire, il y a quand même quelques pestes assez.
Oui, alors après c'est le.
Assez terrible.
C'est toujours intéressant. Enfin, moi je trouve ça très amusant de décrire un milieu de jeunes filles qui sont éduquées ensemble et qui ont toutes leurs tactiques, leurs stratégies pour prendre de l'ascendant les unes sur les autres. Il y en a qui sont qui ont une volonté, une personnalité très affirmée, qui vont tout faire pour rabaisser leur compagne afin de se hisser au-dessus d'elle. Et Blonde semble être la victime toute trouvée. Qui sera là pour la défendre? Peut-elle se défendre elle-même? Au début, on ne le pense pas, mais finalement, il va y avoir bien des surprises pour celles qui l'ont martyrisée.
Oui, parce que, et en plus, finalement, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément mieux loties que Blonde, parce que leur destin est tracé pour elles, qu'elles n'ont pas forcément la liberté que Blonde va acquérir.
Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est un peu illusoire. Toutes ces jeunes femmes, hein, on est une fois encore dans cette société du 19e siècle qui a des règles très très fortes par rapport aux femmes. Les femmes ne prennent pratiquement aucune décision pendant leur vie. Elles passent de la tutelle de leur père à la tutelle de leur mari. Donc ces jeunes femmes de 17, 18 ans qui sont dans le couvent pensent qu'en se mariant, elles vont acquérir une grande liberté. Finalement, elles vont simplement passer sous un autre joug. Et Blonde, qui, elle, n'a pas de mariage prévu, pas de mariage arrangé, sera finalement celle qui connaîtra la plus grande liberté, une liberté que rien ni personne ne pourra entraver.
Anne Fakouri, justement, là encore, ces jeunes personnages qui sont en devenir... ou pas d'ailleurs, puisqu'on l'a bien compris, il y a aussi cette question d'un avenir parfois un peu illusoire ou en tout cas risqué. Là encore, on est par rapport à ce jeune public qui vous lit, dans la nécessité de leur montrer peut-être les opportunités qui se présentent à eux et de leur dire, ben voilà, croyez en vous.
Alors je suis désolée, mais non.
Ah bon.
Non, enfin, non.
C'est
à quel moment dans Hanté il y a l'idée de croire
j'imagine
en soi, il y a
que...
l'idée de justice, il y a l'idée de,
oui, voilà, mais
d'amour, évidemment.
Mais d'un monde
fort,
un peu meilleur quand même, du coup.
C'est,
De participer à une amélioration.
Non. Je suis désolée, mais j'aimerais bien ça, mais c'est tellement pas ce que je pense, que je ressens.
C'est terrible.
Le côté Yukaidi, Yukaida.
Ah non, peut-être pas à ce point-là quand même.
Bah ouais, mais non, bah non. Il y a bien sûr qu'il y a l'idée d'acharnement, mais enfin, il y a l'idée d'acharnement chez tout le monde. On peut pas résoudre une enquête, suivre une quête sans être acharné. Si on reste au fond de son pieu toute la journée, effectivement, voilà. Mais non, je suis désolée, j'ai pas de grand message d'espoir à vous transmettre. Dans d'autres livres, oui, dans Le Clair Voyage que j'écris ou dans L'Horloge du Temps Perdu, qui est un voyage dans le temps, qui est sorti en même temps qu'Hanté, oui. Dans Hanté, non, il n'y a pas d'espoir, il y a la résolution de quelque chose, mais non.
Ah ben non, mais pas de souci. C'est pour eux, hein, moi je suis déjà vieux, donc c'est...
Ouais, nous on s'en fout, on a plus besoin d'espoir. Hein,
c'est déjà trop tard. Est-ce que, pour finir, est-ce que certains d'entre vous voudraient poser des questions à un des auteurs présents ou aux auteurs dans leur ensemble? Même les enseignants, hein. Là-bas, il y a une main. Ah, faut que je me déplace. Tout au fond, là-bas. J'arrive. J'ai bien fait de prendre un micro sans fil.
Pourquoi avoir choisi l'imaginaire comme thème ?
Vous avez 4 heures.
Vous pouvez répéter la question ?
Pourquoi avoir choisi le domaine de l'imaginaire plutôt qu'une littérature plus réaliste ?
Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'imaginaire, le fantastique, c'est un moyen finalement de pousser plus loin la question et de poser les questions avec encore plus d'urgence. Donc finalement, effectivement, je parle de métamorphose monstrueuse, d'animalité, mais tout ça, c'est pour nous renvoyer à nous-mêmes et aux propres transformations qu'on connaît pendant notre vie. Moi, pour moi, c'est vraiment un moyen de poser les questions de manière encore plus forte.
En ce qui me concerne, j'ai même pas le sentiment de travailler dans le domaine de l'imaginaire. Pour moi, la SF, c'est une littérature qui parle de nous, de notre monde. Alors après, on invente des gadgets comme une machine à voyager dans le temps, mais le monde dont je parle, c'est toujours le nôtre. C'est une façon un peu décalée, comme je le disais tout à l'heure, c'est une façon de confronter des époques, confronter des points de vue. Mais voilà, on parle de notre monde et uniquement de notre monde. Dans la SF telle que je la pratique. Alors évidemment, il y a plein d'exceptions différentes, c'est évident.
Je voulais dire la même chose, à savoir que moi j'utilise le futur pour parler du présent. Voilà.
Eh ben moi, c'est parce que j'en avais envie, en fait. J'aime l'imaginaire, je sais pas faire... Enfin, je sais que je vais faire d'autres choses, mais le livre s'y prêtait. J'avais envie de raconter des histoires de fantômes, parce que j'y crois. Et voilà, j'en avais juste envie. Il n'y avait toujours pas de message dans l'imaginaire, je suis désolée.
Monsieur Dixon, pourquoi avoir choisi comme malédiction celle de l'ours ?
Alors en fait, c'est parti d'un rêve. J'utilise beaucoup mes rêves pour l'inspiration, j'essaie de m'en souvenir, quand je me réveille, je note les impressions un peu évanescentes qu'on a qui partent très vite. Et j'ai rêvé de cette chaumière, en fait, c'est un rêve très simple, j'étais dans une forêt profonde, très obscure, et il y avait une chaumière, et je m'en approchais, sans réussir à l'atteindre, comme si je faisais du surplace. Je me suis réveillé et j'ai tout de suite pensé au conte de Boucle d'Or et à la chaumière des trois ours. Mais j'avais un peu oublié ce conte, je l'avais lu ou on me l'avait lu quand j'étais enfant. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai relu, et je me suis rendu compte...